l'Atelier des médias.
Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias, troisième épisode de notre série Bienvenue en Adosphère. Aujourd'hui, merci à toutes et à tous pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires concernant les deux épisodes précédents. Bienvenue en Adosphère est réalisé en partenariat avec la Session Magazine de l'Institut Pratique du Journalisme à Paris. 13 élèves de cette école ont planché avec l'Atelier des médias pour explorer l'univers numérique et médiatique des adolescents en 2015-2016. Cette semaine, nous naviguons aux frontières de l'adosphère. Les 13-17 ans sont mineurs. Le regard et l'avis de leurs parents comptent dans leurs choix et leurs actes. L'école et les enseignants ont également une place centrale dans leur vie. Ces repères sont essentiels car l'Internet est un espace qui comporte des dangers et les jeunes sont souvent plus vulnérables.
L'Atelier des médias.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Pour ouvrir l'émission aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un témoignage recueilli par Clémence Baudouin, apprentie journaliste à l'IPJ. Clémence a choisi de s'intéresser au harcèlement en ligne. Elle a publié un message sur Facebook pour chercher des témoignages de victimes adolescentes. Elle a été contactée par une personne qui a souhaité rester anonyme et qui ne s'est pas présentée comme harcelée, mais plutôt comme harceleur. L'histoire se passe autour de 2008, peu de temps après le moment où l'Internet fait son entrée dans la vie, dans la chambre, dans le quotidien des adolescents.
Alors bah en fait à la base on est parti sur un canular, hein, tout bêtement, on a voulu piéger un collègue, un camarade. Donc on s'est fait passer pour une très jolie jeune fille italienne, Francesca.
Vous étiez au lycée à ce moment-là ?
Tout à fait, donc c'était en seconde, je pense, seconde ou première, mais je pense que c'était seconde. Et en fait, on s'est fait passer sur MSN, qui était le réseau social par excellence à cette époque-là, pour justement une jeune et jolie italienne du nom de Francesca, aux mensurations très avantageuses. Et en fait, on est rentré en contact avec cet ami-là, bon, qu'on trouvait un peu niais avec les filles, voilà, donc on voulait un peu comprendre qui il était, quels étaient ses goûts et ses envies concernant le sexe féminin. C'est que on est très vite passé en fait de questions assez basiques, hein, donc en fait où on lui demandait quel était son type de fille, quel était son type de pratique, enfin ce qu'il avait envie de faire, etc. Chose auxquelles il a répondu de bon gré, alors que c'était déjà quand même des questions qui rentraient vraiment dans la sphère intime. Et par la suite, en fait, ça a un peu dégénéré dans le sens où un soir où moi j'étais pas dans la conversation MSN, puisqu'on était quatre en fait sur cette conversation MSN, sur ce profil de Francesca, eh bien en fait j'ai des amis qui lui ont demandé d'aller beaucoup plus loin. En fait, c'est-à-dire que pour qu'il y ait rencontre entre Francesca et ce cher jeune homme, il fallait absolument qu'il montre des vidéos de lui. Donc il y en avait une où il se masturbait, et donc en fait. La vidéo a émergé, hein, donc il a vraiment fait cette chose-là, il nous l'a envoyé sur MSN, et malheureusement, en fait, le bruit a très vite couru. Et donc, forcément, il y a eu des moqueries assez lourdes, et surtout pendant les trois derniers mois de l'année scolaire, il a vraiment été l'objet quand même de moqueries répétées, et surtout assez méchantes, quoi.
Donc si je comprends bien, on part vraiment d'une blague qui tourne un petit peu mal et on en arrive à une forme de harcèlement puisque cette personne est devenue votre victime. Comment vous expliquez ça ? Comment est-ce que à partir d'un moment, on devient le bourreau entre guillemets de quelqu'un derrière un écran ?
Alors en fait, je m'estime pas bourreau parce que j'ai eu une chance, c'est quand même justement qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte de la part de cette personne, c'est-à-dire que bon, effectivement, elle a quand même subi une humiliation, une vraie dégradation, mais elle a quand même réussi à tenir le choc, à tenir le cap, et heureusement, on n'a pas eu de problème de tentative de suicide, enfin en tout cas pas à ce que je sache, et je crois qu'aujourd'hui, elle s'en sort quand même plutôt relativement bien, donc ça c'est ce qui fait que bon, je me considère pas non plus comme un bourreau. Mais donc en fait le problème là-dedans, ce qui fait qu'on rentre dans une spirale infernale, c'est qu'à la base on est sur une blague bon voilà, grivoise, enfin un peu lourde, mais n'amène pas énormément de problèmes. Et le problème, c'est vraiment cette surenchère, surtout qu'on était en fait un groupe sur cette conversation, et qu'en fait chacun voulait apporter sa pierre à l'édifice, et chacun a voulu aller de plus en plus loin. Et en fait, lui n'a jamais su dire non, mais de notre côté, en fait, c'est vrai qu'on a commencé à demander des choses incroyables. Enfin, en fait, on n'imaginait certainement pas qu'il allait se prendre en vidéo sans avoir reçu en retour une vidéo de cette Francesca qui n'existait pas. C'est-à-dire que c'était une photo d'une personne qu'on pouvait retrouver sur Google Images, quoi. Et le problème, c'est qu'il nous a jamais demandé de confirmation qu'on était une personne réelle. Il est rentré dans la gueule du loup sans se poser de questions.
Et vous ne vous êtes pas dit à un moment stop, ça va trop loin, c'est notre pote, il est pas possible là que ça continue, on va s'arrêter là.
Bah en fait moi le jour où en fait on lui a demandé justement ces vidéos vraiment dégradantes, j'étais pas sur la conversation mécène, j'étais chez moi, donc voilà, j'ai rien su en fait le soir même. Si j'avais été sur la conversation MSN qu'on avait de notre côté pour discuter justement de ce qu'on allait lui dire et lui faire faire, bah effectivement je pense quand même que j'aurais amené un petit côté quand même, les gars, ça va trop loin effectivement.
Il y a ensuite eu la fameuse vidéo qui a tourné au sein du lycée. Qui est à l'initiative de ça?
Alors en fait je sais pas exactement qui a diffusé la vidéo parmi nous quatre, enfin je sais que c'est pas moi, voilà, mais en gros, je pense que c'est surtout la rumeur. Je pense que peu de personnes l'ont vraiment vu. Je pense qu'en gros, c'est quand même relativement resté dans le cercle des quatre ou peut-être de leurs amis proches. Donc en gros, on devait peut-être être, allez, grand maximum, une soixantaine à l'avoir vu. Mais le problème, c'est surtout qu'en fait, rien que la rumeur en elle-même causait des dégâts. D'autant que certains pouvaient certifier qu'elle existait vraiment. Donc je sais pas exactement à quel point elle a été relayée, mais c'est vrai que tout le monde était au courant au lycée, quoi.
C'est-à-dire donc il y avait des bruits de couloir, c'est ça, qui circulaient sur cette vidéo et ce que lui faisait dedans.
Ben c'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, enfin les gens n'ont pas besoin de voir pour se moquer, quoi. Je pense que. Enfin, c'est le geste en lui-même suffit à la moquerie, en fait.
Et à partir de là, quelle a été sa réaction à lui? Il vous soupçonnait déjà ou...
Alors, je pense pas qu'il nous ait soupçonné sur le coup, en fait. Enfin, il s'est vraiment demandé d'où ça venait, quoi, cette histoire. Je pense qu'il pouvait pas vraiment savoir que ça allait être nous, qui ça pouvait être, parce que ça aurait pu être n'importe qui, en fait, qui aurait pu lui faire ça. Donc, la seule chose que nous on a vu, c'est que clairement il s'est renfermé derrière ça. Il s'est mis une carapace parce que il y avait plus de façon de possibilité, parce que d'un côté il y avait des gens qui le rejetaient, les gens qui ne le connaissaient pas et vers qui il aurait été susceptible d'aller, ne voulait pas le connaître, du coup, et donc il était totalement bloqué, quoi. Mm-hmm. C'était, il était obligé de toute manière de s'isoler. I'm a rabbit.
Et donc, pour ce qui est des suites, j'ai cru comprendre que le proviseur de votre lycée était intervenu.
On a vu un jour justement les policiers dans le lycée, quoi, en train de discuter avec la proviseure. On a très vite compris que la proviseure avait pas l'air d'être très épanouie par la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. On a eu le proviseur est venu dans la classe avec le CPE et au moment où on était avec le prof principal et très clairement en fait sans faire mention exactement de ce qu'il y avait dans la vidéo nous a rappelé quand même qu'il y avait des règles à tenir, enfin que on ne pouvait pas humilier une personne comme on l'avait fait de manière tout à fait objective, quoi. Donc elle voulait savoir qui étaient les coupables. Nous, à ce moment-là, on était quand même assez stressés que quelqu'un sache qui était à l'origine de tout ça.
Comment on sent à ce moment-là, quand on est l'un des complices, entre guillemets, de la vidéo?
Déjà, on ne sait pas qui est au courant, qui a plus de renseignements, enfin, qui sait, en fait, exactement. Parce que nous, on avait vraiment peur, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui connaisse l'origine de la vidéo et qui sache vraiment que c'était nous. Et qui le dise au proviseur. Parce que, moi, je m'imaginais déjà, à ce moment-là, en centre de redressement pour délinquants juvéniles. Vraiment, concrètement, je me disais, mais c'est pas croyable, cette histoire. Donc, déjà, j'étais totalement flippé, quoi. Et je pense qu'on était quand même, globalement, les quatre flippés. Et donc, ce qu'on avait le plus peur, c'était quand même quelqu'un nous balance, quoi.
Et à ce moment-là, vous dites pas, je vais aller me dénoncer, je vais en parler.
Bah en fait, comme on n'a pas mesuré du tout les conséquences à la base, mais qu'on a vu que les conséquences que ça pourrait avoir sur nos vies, enfin en tout cas, je savais pas du tout si c'était pénalement répréhensible, si c'était juste un délit, enfin j'en savais rien du tout. Donc en plus, on était quand même un peu au début d'Internet, enfin en tout cas de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc franchement, j'avais aucune idée de ce à quoi ça nous emmènerait. Concrètement, j'avais aucune envie d'être catégorisé comme délinquant ou comme comme harceleur ou quoi que ce soit. Donc j'avais pas du tout envie. En fait, que des conséquences me retombent dessus, quoi. Enfin, que j'ai à payer pour ce que j'avais fait.
Vous avez eu des nouvelles de ce garçon ?
Bah alors j'ai eu très peu de nouvelles de lui parce qu'en fait simplement je me sentais coupable enfin de ce que je lui avais fait. Je me suis dit il faut que je laisse ça de côté, c'est une erreur, enfin c'est une connerie que j'ai fait. J'ai pas maintenu un lien, tu vois, j'ai pas non plus essayé de le soutenir moralement plus que ça, quoi. Je voulais pas en fait qu'il puisse remonter jusqu'à moi de toute manière. Donc en fait c'est juste 3-4 ans après. Une fois quand même que la page était un peu tournée et qu'en plus on était passé à ce moment-là sur Facebook, où là je lui ai dit excuse-moi pour ce qui s'est passé il y a 3-4 ans
via Facebook, donc
voilà, ouais, je lui ai juste envoyé un message pour lui dire excuse-moi de ce qui s'est passé, c'est vraiment dégueulasse, ça aurait jamais dû être fait, quoi.
Il vous a répondu?
Il m'a répondu une réponse lapidaire. Enfin, je pense que c'est vrai que ça arrivait totalement à contre-temps et que lui aussi avait en plus pas envie d'en reparler. Donc, il m'a répondu OK, pas de problème.
Quand j'ai mis mon message sur le je recherche quelqu'un pour le cyberharcèlement, vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit qu'il y avait cette histoire, que du coup, d'une certaine manière, vous associez pleinement à du cyberharcèlement. Comment vous définissez-vous le cyberharcèlement ?
Bon, en fait, au moment où on a fait cette chose-là, je pense pas que ça existait d'ailleurs, ce terme de cyberharcèlement, ou en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, concrètement, je savais que c'était un acte de dégradation, d'humiliation de cette personne, et donc pour moi, c'est ce que je reliais au harcèlement. Je rajoute cyber parce que c'était sur Internet, tout bêtement. Aujourd'hui, j'en parle parce que, justement, c'est vrai que c'est quand même une histoire un peu dégueulasse, voilà, je témoigne parce que, quelque part, je pense que c'est le genre de choses... qui sont reliés justement au sujet, quoi. Sur le coup, on ne savait pas, mais oui, effectivement, ça, je pense que c'est la définition même de ce qu'est un harcèlement sur Internet, quoi. Pour moi, ce qui fait qu'on a été dans le harcèlement et que ça a été très mauvais pour cette personne, parce que je suis sûr qu'il en porte encore les stigmates aujourd'hui, c'est vraiment ce fait qu'on l'ait raconté à tout le monde. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me demande quand même s'il y avait une bienveillance. Enfin, moi, je pense qu'on aurait dû être bienveillant, c'est-à-dire qu'en gros, on aurait pu garder ça entre nous, rigoler de ça entre nous, mais surtout éviter de diffuser ça ailleurs.
RFI. Ce témoignage a été recueilli par Clémence Baudouin. Certains éléments et détails ont été effacés de l'histoire que vous venez d'entendre par respect pour la victime. Ces modifications n'entament en rien le caractère édifiant de ce récit. On comprend bien notamment comment, sans s'en douter, sans le vouloir véritablement, on peut se retrouver un jour harceleur d'une personne dont on voulait simplement se moquer. Cette histoire est emblématique d'un passage, d'une transition durant laquelle personne n'était préparé à ce type de phénomènes. En 2016, les choses ne se passent plus de la sorte. Les jeunes comme les moins jeunes savent que l'Internet est un outil à la puissance redoutable. Ce qui est certain, c'est que même si le harcèlement scolaire, cet enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit l'individu, comme nous l'explique Wikipédia, même si le harcèlement scolaire existe depuis toujours, l'exposition nouvelle qu'impliquent les réseaux a donné une dimension jusqu'alors inconnue à ce phénomène. La spécialiste des adolescents en ligne, Monique Dagneau, répond à Théo Hetch.
Comme vous vous exposez dans un espace, disons, semi-public, tous les phénomènes de bouc émissaire, de groupes qui se lient contre vous, ou les personnes qui disent du mal de vous, c'est aussi... Alors, ça existe dans le monde réel, c'est quand même aussi bien étudié. Les phénomènes d'ostracisme dans les cours de récré, hein, je parle toujours de... Mais, à nouveau, disons que... C'est amplifié, complexifié, recomposé, et on pourrait dire, pour le dire d'une phrase, que la culture des réseaux sociaux, elle augmente, facilite les embrouilles de la culture d'ado. La culture d'ado est faite d'embrouilles. Il y a beaucoup d'embrouilles sur qui m'aime pas, avec qui je suis amie, qui sont bon, etc. Qui m'invite, bon, etc. Il y a beaucoup d'embrouilles. Et mais ça depuis tout le temps, mais c'est vrai que ça le complexifie encore plus quand vous avez ce jeu des interactions numériques.
La haine, alors ça c'est le réseau social Ask, je m'étais une fois inscrite sur Ask, en fait. C'est un réseau social, donc on a un profil. Et les personnes peuvent nous poser des questions. Donc ça peut être des amis. Ou par exemple, le nom s'affichera, par exemple, là c'est Marine, là c'est machin et tout. Et on peut aussi nous poser des questions en anonyme. Quand j'étais sur le profil de certaines filles ou voilà, de certaines choses, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont d'une violence, mais c'était monstrueux. Enfin, t'es grosse, t'es moche, des insultes monstrueuses. Mais là, je me suis dit, mais par exemple, les questions fréquentes, tu sors avec qui, nanana, qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est vrai que t'as fumé à la dernière soirée, est-ce que qui était bourré à la soirée, nanana. Enfin, c'est ça, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. T'es sur qui, t'es amoureuse de qui, c'est qui ta meilleure amie. Enfin, moi, j'étais choquée de voir à quel point parfois c'était, les attaques étaient violentes, enfin, des insultes, salope, etc. Moi, j'étais... Ouais, mais moi, je me dis, mais c'est pas possible, comment on peut écrire ça? Enfin, au début, on a un petit questionnaire à remplir, genre, qu'est-ce que je préfère entre les glaces ou les machins, qu'est-ce qui t'intéresse le plus entre ça et ça? Enfin, moi, c'était tout innocent, tout gentil. En plus, par exemple, les amis, on se disait sur des profils, est-ce que tu peux me faire un texte? Et genre, nous faire un texte, nanana, 4 ans qu'on se connaît, blablabla. Mais quand j'ai vu les insultes, mais moi, j'étais en mode genre, ah oui, d'accord, ok. Surtout le fait que ça soit anonyme, c'est vraiment lâche, enfin. En plus, la plupart des personnes, c'est des personnes qu'on connaît qui, c'est des personnes qu'on connaît qui laissent des mauvais commentaires, mais qui n'assument même pas, qui viennent même pas nous dire oui, j'ai un problème avec toi, voilà, nanana. Parce que par exemple, sur Instagram, moi, c'est, enfin, sauf sur les comptes, par exemple, de grandes stars, par exemple, même Angel Phoenix ou Kim Kardashian, je sais pas quoi, évidemment qu'il y a des messages de haine. Mais après, je veux dire, moi, sur des messages, sur l'Instagram de mes amis, j'ai jamais vu, genre, t'es moche, t'es grosse, ou même une insulte, enfin, ça, c'est pas du... Surtout, c'est aussi le fait que voilà, on décide les personnes qui regardent notre profil. Or que Ask, une personne qui ne connaît pas, tape n'importe quel pseudo. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui existe à ce nom-là. Bon bah très bien, je vais poser une petite question.
Merci à Mathilde, 15 ans, pour cet éclairage, et à Bastien Lejeune qui a interrogé Mathilde. Si vous n'avez pas entendu les premiers épisodes de notre série Bienvenue en Adosphère, il n'est pas trop tard. Vous pouvez les retrouver en version longue dans un son parfait sur l'atelier des médias et en version longue dans une qualité légèrement dégradée sur le podcast de l'émission proposé par RFI. Si, en revanche, vous avez suivi le premier épisode, vous aurez peut-être remarqué le décalage qui existe entre les commentaires que l'on retrouve sous les photos Instagram des jeunes adolescentes, ma vie, ma femme, mon amour, toutes ces douceurs, cet excès de mots doux et les écrits auxquels on peut être confronté dans d'autres contextes, comme sur le réseau ask.fm dont nous parlait Mathilde il y a un instant.
Je suis en train de négocier en ce moment pour avoir Ask, c'est un autre réseau social encore.
Kenza a 14 ans, elle répond aux questions de Maëlle Robert de l'IPJ.
Alors, on a une page et on peut poser des questions à d'autres personnes. Soit tu laisses ton nom, soit tu peux les poser anonymement.
Et pourquoi tu aimerais bien avoir un compte?
Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont Ask et du coup, j'aimerais bien avoir. Et en plus, ça a l'air bien et tout ça. Mais mes parents, je crois qu'ils hésitent un peu parce que, il y a beaucoup de problèmes sur ce réseau social à cause des questions anonymes et tout ça. Et donc, du coup, ça a pas très bonne réputation.
Comment ça se passe alors, la négociation?
Bah, pour l'instant, c'est en train de traîner en fait. Donc, du coup, on en a parlé une ou deux fois, mais mes parents m'ont dit, on verra après et tout ça, on verra plus tard. Et je sais pas, pour l'instant, c'est un peu... voilà.
Là, tu leur dirais quoi, par exemple, pour les convaincre?
Je leur dirais que, déjà, j'ai beaucoup d'amis qui ont ça, que on en parle beaucoup au collège, parce que, du coup, quand elles en parlent, je me sens un peu à part, donc du coup, ça m'énerve. Et que il n'y a pas eu de problème dans le collège avec ce réseau social. Enfin voilà, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas, quoi. Ouais, en fait, au début, je comptais m'inscrire sans qu'ils le sachent. Mais, en fait, après, je me suis dit non, parce que ma mère, elle avait entendu que ce réseau social, il avait pas une très bonne réputation. Et donc, du coup, je me suis dit, si elle sait que je l'ai, elle ne sera pas très contente. Donc, du coup, j'aurais demandé. J'espère que je vais l'avoir.
Oui, tu préfères avoir l'autorisation pour pouvoir éventuellement avoir d'autres outils plus tard et moi être moins contrôlée, c'est ça?
C'est ça.
Alors, Nouria Belarbi, 3 enfants, une fille de 14 ans et mes fils, 11 ans et 7 ans et demi.
Nouria est la maman de Kenza que vous venez d'entendre. Nous la retrouvons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous si vous voulez savoir la manière dont les parents gèrent la présence de leurs enfants ados en ligne.
L'Atelier des médias.
Atelier des médias, bienvenue en Adosphère. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire 3 semaines, nous avons choisi de vous initier, de nous initier à la culture média et web des adolescents. Une belle manière de commencer 2016 en s'informant sur le monde tel qu'il est et tel qu'il tend à devenir. Les adolescents ont développé sur Internet une culture et des codes qui leur sont propres. Comment leurs parents et l'école gèrent ces nouvelles réalités? C'est la question que nous avons choisi de poser. Aujourd'hui, Maëlle Robert de l'IPJ a rencontré Kenza, 14 ans, et sa maman, Nouria, parole croisée.
Nouria Belarbi, 3 enfants, une fille de 14 ans et mes fils 11 ans et 7 ans et demi.
Donc on va se concentrer sur votre fille de 14 ans, Kenza. Est-ce que vous savez si elle est inscrite, elle, sur des réseaux sociaux?
Elle est inscrite, donc je dis les noms, sur Facebook, Twitter et alors Instagram. Et Snapchat, c'est des réseaux sociaux, voilà.
Oui, je suis inscrite sur Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, et voilà. Alors, je m'appelle Kenza Belarbi et j'ai 14 ans, je suis en 3e.
Est-ce que tu fais attention à tes paramètres de confidentialité?
Oui, je fais beaucoup attention parce que... Enfin, j'entends tout le temps parler de ce qui se passe sur Internet et tout ça et tout ça. Donc du coup, je fais hyper attention en fait.
Est-ce que tu en parles avec des parents?
Non, pas trop, parce que enfin ils savent que je fais attention et tout ça. Donc enfin, j'en parle pas trop avec eux. Et de toute façon, je sais faire. Donc en plus, j'étais amie avec 2 personnes sur Facebook et ces 2 personnes, elles se sont fait pirater leur compte. Du coup, j'ai reçu des messages bizarres. Et donc ils ont dit « Ah, je me suis fait pirater mon compte, alors n'allez pas sur les liens qui sont sur ces messages et tout ça. »
Par exemple, est-ce que tu l'as dit à tes parents?
Oui, je leur ai dit. Mais en fait, je leur ai pas dit tout de suite, je leur ai dit un peu après.
Tu voulais pas le dire tout de suite?
Non, pas trop. pas trop, non. J'avais peur qu'ils disent « Tu vois, les réseaux sociaux, c'est dangereux, non. » Du coup...
Est-ce que tes parents sont sur Twitter ou sur Facebook?
Mon père est sur Facebook, mais depuis pas très longtemps, voilà. Et non, par contre, ma mère, elle a pas du tout ce réseau social, c'est pas du tout son truc.
Vous n'êtes inscrit sur aucun réseau social?
Non, aucun.
Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'elle produisait, ses comptes?
Non.
Vous n'avez pas envie de voir ce qu'elle fait?
Non, je lui pose des questions. Mais c'est vrai que je vais pas forcément regarder. Parfois, elle me montre des choses, mais non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas forcément eu l'idée. Et puis, comme moi-même, je manie pas du tout les réseaux sociaux. C'est vrai que je me sens peut-être pas non plus forcément à l'aise pour. Mais c'est vrai que je pense que elle vivrait assez mal le fait que je lui demande de voir, on va dire, et ses productions et. Alors, une fois, j'ai vu une photo, parce qu'elle avait mis une photo sur... Elle avait posté une photo sur Facebook, donc je l'ai vue. Et c'est vrai que c'était une photo avec des copines, assez sympa. Voilà, je pense que ça fait relativement partie de son intimité. Voilà, c'est pas forcément des choses qu'elle me montrerait spontanément. Sachant qu'elle sait quand même que si on a une crainte ou si on a une interrogation, on peut quand même être amené à... Enfin, j'hésiterais pas à le faire si je pensais qu'il y avait un danger ou quelque chose. Voilà, comme les SMS, ça a pu m'arriver de non pas de regarder, mais de lui demander de me montrer une conversation, par exemple, quand j'avais eu un doute sur la teneur de la conversation. Ça a pu arriver.
Est-ce que t'es amie avec ton père?
Non, je suis pas amie avec mon père. Non, je préfère pas être amie avec lui. Je sais pas, je préfère pas parce que enfin, j'ai pas très envie qu'il voit ma page et tout ça, qu'il voit ce que je publie, mes amis et tout ça, j'ai pas très envie.
Donc par contre, il le sait que vous êtes pas amis, ça le dérange pas?
Bah, il a jamais cherché à tellement être ami avec moi, hein, mais heureusement parce que déjà que quand mon petit frère s'est inscrit sur les réseaux sociaux et tout ça, j'avais pas tellement envie qu'il soit mon ami et tout ça, donc du coup, mais bon, finalement après j'ai accepté.
Est-ce que tes parents ils ont des comptes Instagram ou Snapchat?
Non. Mon père, il a juste Facebook et ma mère, elle a rien du tout.
Et est-ce que tu montres certaines photos si tu les trouves drôles ou intéressantes à tes parents, ça t'arrive?
Oui, beaucoup les photos sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de trucs drôles. Et donc je leur montre très souvent des trucs drôles comme ça, ouais. Ou des vidéos et tout ça.
Vous disiez qu'elle vous montre des choses, elle vous a montré quoi par exemple ?
Alors des photos qu'elle fait d'elle, qu'elle poste. Par exemple, donc nous étions à Rome pendant les vacances de Toussaint en famille, donc elle faisait pas mal de photos d'elle avec différents paysages ou différents monuments voilà, qu'elle postait sur ses réseaux, donc ça elle peut me les montrer. Et sinon elle me montre essentiellement des vidéos qu'elle regarde sur des youtubeurs ou des choses autour de domaines qui peuvent lui plaire, et surtout des choses comiques en fait.
Vous disiez que vous en parlez avec elle parfois, vous lui posez des questions ?
Oui, alors ça on lui pose beaucoup de questions. J'essaye surtout de la prévenir sur les dangers en fait, des réseaux sociaux et tout ce qui est finalement aussi Internet, mais surtout les réseaux sociaux. Je lui donne surtout des conseils et il y a quand même des choses que je lui dis sur ce qu'elle peut ou ne peut pas faire sur les réseaux sociaux. Et donc je lui pose aussi des questions, mais c'est vrai que je ne vais pas vérifier ni regarder.
Quelle sorte de conseils vous lui donnez ?
Ben, par exemple, depuis longtemps, je lui ai dit clairement qu'elle ne devait pas poster des photos d'autres personnes qu'elle, en particulier de ses frères et de son petit frère, de ses copines, sans leur autorisation. Et quand c'était des photos d'elle, que ce soit des photos... soft, normal, voilà, plutôt pas, surtout pas de photos dénudées ou même en maillot de bain ou des choses qui pourraient prêter à confusion. C'est surtout là-dessus qu'on l'a un peu prévenue. Pareil pour les messages aussi qu'elle peut envoyer sur les réseaux sociaux. On lui a souvent dit, ça a commencé même avant avec les SMS en fait, sur la teneur de ce qu'elle pouvait mettre dans les messages, de ne pas mettre de gros mots, d'insultes, de choses qui pourraient, finalement, qu'elle pourrait regretter et qui pourraient être problématiques. Voilà. Et dans le même sens, je lui dire aussi que si elle recevait des choses avec des propos injurieux ou des choses comme ça, qu'elle nous en parle. Voilà.
Est-ce que vous savez combien de temps Kenza passe sur les réseaux sociaux ?
Beaucoup de temps. On a essayé déjà avec Kenza de quantifier avec elle, parce que c'est quand même un sujet de conflit dans la famille, souvent. Ce qui est sûr, et elle le dit elle-même, c'est qu'elle passe beaucoup plus de temps que ce qu'elle pense. Et quand on essaye de quantifier, je pense que ça dépend, c'est pas pareil les jours de semaine, les vacances, les week-ends, mais globalement, je pense qu'elle passe facilement une heure et demie par jour, facilement.
Vous dites que c'est un sujet de conflit. Comment ça se concrétise ?
Par le temps qu'elle passe, on trouve qu'elle passe beaucoup trop de temps. Et que du coup, on trouve que c'est trop de façon générale. Ça l'empêche peut-être à certains moments de faire d'autres choses. Alors, elle fait quand même pas mal de choses par ailleurs. Parce qu'elle lit beaucoup. Et heureusement, parce que c'est ça qui la freine un peu. Parce qu'elle passe beaucoup de temps à lire. Et puis bon, elle a quand même beaucoup de travail. Et voilà, sa vie sociale. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même qu'elle y passe pas mal de temps. Et qu'elle se sent souvent un peu dépassée. Et souvent, elle a souvent l'impression de pas avoir le temps de faire les choses. Parce qu'elle a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Et comment elle réagit ? Est-ce qu'elle est d'accord avec vous sur le fait qu'elle passe trop de temps ? Qu'elle devrait peut-être passer moins de temps ?
Elle est tout à fait d'accord, mais elle dit qu'elle n'arrive pas à s'organiser et qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Alors, elle fait des efforts. Il y a des moments où c'est mieux, mais c'est difficile. Mais elle le reconnaît assez facilement, sachant qu'elle a quand même son téléphone à disposition jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Où là, elle nous le donne, mais sinon, elle l'a quand même relativement librement. Et on a été amené quand même une ou deux fois à lui enlever.
Elle vous le donne avant d'aller se coucher ? C'est pour pas qu'elle écrive des textos ou comme ça pendant la nuit, ou comment c'est venu ?
Alors, elle nous le donne tous les soirs avant d'aller se coucher, donc vers 21h. Pour nous, c'est un moyen d'être sûr qu'elle... Alors, non pas qu'elle aille parce qu'on lui fait confiance, mais surtout qu'elle soit sollicitée parce qu'on sait qu'elle a des amis qui se couchent très tard et qui sollicitent sur les réseaux sociaux même tard dans la nuit. Aussi par rapport aux ondes, parce qu'on lui fait éteindre le téléphone. Et elle est très sensible surtout à cet argument-là.
Tu sais combien de temps que tu passes sur les réseaux sociaux ?
Par jour ? Je pense par jour, je dois passer 2 heures.
C'est beaucoup pour toi ?
Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais au début, spontanément, j'aurais pas dit 2 heures, j'aurais dit moins. Mais en fait, je me rends pas compte de combien de temps je passe, donc du coup, voilà.
Vous avez calculé avec tes parents ?
Il y a un moment, une journée, mes parents m'ont dit on va voir combien tu passes sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, du coup, on a fait un espèce de. Enfin, on a calculé en fait. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé 2 heures et demie, je crois. C'est surtout le week-end. Le week-end et le mercredi après-midi.
Est-ce que tes parents te mettent une limite, par exemple le soir ?
Alors le soir, de toute façon, je dois aller me coucher genre 21h, 21h30. Et après, ils veulent que je laisse le téléphone et la tablette dans le salon et pas dans ma chambre. Et voilà.
T'as accepté cette règle facilement ?
Non. Non, je l'ai pas accepté facilement. C'est énervant parce que presque toutes mes copines peuvent avoir leur téléphone le soir dans leur chambre, mais bon, bah voilà. Hein, maintenant, je l'accepte.
Mais est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir cette règle ? Comme ça, t'as pas forcément la tentation de rester sur ton téléphone et sur ta tablette. C'est comme ça, tu peux dormir plus tôt.
C'est quand même bien, ouais, dans ce sens, parce que y a une fois où j'ai gardé mon téléphone et je me suis couchée très très tard à cause de ça. Et donc du coup, c'est peut-être mieux pour comme ça si j'arrive pas à me limiter, ouais.
Et elle est assez réceptive par rapport à ses conseils.
Oui, très réceptive. Ouais. Oui, parce que je pense qu'elle l'a, quand elle était plus jeune, elle a une ou deux fois peut-être un peu dérapé, et je crois qu'elle a eu très peur après parce qu'elle en fait elle en avait pas conscience. Et quand on lui a expliqué, du coup, elle fait attention.
Elle a dérapé. Comment vous l'avez su ?
Je l'ai su parce qu'elle était plus jeune, et un jour elle s'était disputée avec une copine en SMS. Elle avait écrit à sa copine qu'elle était grosse. Enfin, elle n'osait pas me dire. Elle m'a dit, maman, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai écrit quelque chose. Peut-être que ça va rester. Peut-être que ses parents vont s'en rendre compte. Peut-être qu'il va y avoir. Et donc, on en a beaucoup parlé. Mais bon, ça paraît anodin, mais c'est le début. Je crois que cet épisode-là, ça l'a beaucoup marqué. Et je lui ai expliqué que ça pouvait aboutir à une situation de harcèlement, hein, parce qu'au collège, il y a quand même eu des soucis dans son collège aussi, des enfants qui étaient harcelés via les réseaux sociaux, via avec des SMS, des messages dégradants à toutes les heures du jour et de la nuit. Il y a eu l'intervention de la police. Enfin, il y a eu des choses quand même assez sérieuses dans son collège. Elle n'était pas concernée, mais il y a eu des histoires. Et c'est aussi à travers ça qu'on en a beaucoup parlé.
Vous l'avez appris comment ? C'est par l'équipe pédagogique du collège ?
Non, c'est elle qui m'en a parlé. Et en plus, il se trouve que j'avais assisté à un congrès dans le cadre de mon travail sur les réseaux sociaux, justement. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aussi aidée, parce que j'ai appris plein de choses moi-même par rapport à toutes les, enfin, tout ce qu'on pouvait faire en prévention.
Kenza et Nouria, sa maman, étaient interrogées par Maëlle Robert de l'IPJ. La maman de Kenza gère la présence de sa fille en ligne par l'échange et la confiance. Certains parents adoptent des stratégies plus intrusives.
Thomas Hudson, 48 ans. Je suis parent de 3 enfants, âgés de 12, de 14 et 18 ans.
Des filles, des garçons ?
3 filles.
Donc on va parler des 2 plus grandes du coup. Est-ce que vous savez si elles sont inscrites sur des réseaux sociaux ?
Oui, l'aînée est inscrite. Donc ça s'est passé un peu violemment parce que je ne souhaitais pas qu'elle soit inscrite. Et évidemment, j'ai contrôlé les appareils à la maison jusqu'au jour où je ne pouvais plus les contrôler, notamment un iPad, puisque c'est un ami qui l'avait reconfiguré en passant par un autre réseau et je n'y avais plus accès. Donc j'ai découvert le poteau rose ainsi. Donc elle était inscrite sur Facebook. Moi, je souhaitais qu'elle n'y soit pas inscrite parce que même si elle était en âge, elle avait plus de 13 ans, elle pouvait tout à fait s'y inscrire librement. Je trouve que vu ce qu'on peut trouver sur Facebook et vu les filtres qu'il y a, les filtres Facebook, le fait que ce soit en réseau, on ne contrôle pas ce que font les autres de sa propre image. Et je trouve que comme elle était mineure, j'étais toujours responsable de son image et je ne pouvais pas la contrôler et contrôler ses réseaux d'amis.
Elle avait quel âge à l'époque ?
15 ans.
Comment elle a réagi ?
Très très mal, bien sûr. Donc finalement, elle a entre guillemets gagné, mais ça s'est passé par une leçon sur la responsabilité. Et je pense qu'elle n'a toujours pas compris ce que je voulais dire, parce que je lui ai expliqué que sur un réseau, si quelqu'un mettait un nom ou une remarque sur son image, il était relativement difficile de l'effacer, de l'enlever, et que tout ce qu'on disait était inscrit à tout jamais sur Internet. Et pour effacer une information, en fait, il faut faire énormément de bruit pour qu'elle se dissipe et qu'elle disparaisse. Or, si les gens veulent qu'elle réapparaisse, il suffit que ses amis, ou plutôt ses ennemis, fassent appel à cette information pour qu'elle remonte. Dans ce cas-là, on a une sorte de... Ben, on a un mal-être qui n'est pas juste pendant les heures dures où on voit la personne, mais qui devient 24 heures sur 24, puisque son image électronique remonte à la surface. Il n'y a que ça qui apparaît. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with. And we can't get enough, no. Heaven, if you sent us down, so we could build a playground. The sinners, the player saints, you'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des Médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
À la maison, on a trois réseaux Wi-Fi. On a un réseau où j'ai accès qui est ouvert 24 heures sur 24. J'ai un autre réseau Wi-Fi pour ma fille aînée. Là, elle est partie. Et pour maintenant la deuxième. Où il y a un accès libre, mais qui n'est pas ouvert 24h sur 24.
Et il est fermé à partir de quelle heure?
Alors, il ferme à 21h et il réouvre à 6h du matin. Ça se fait automatiquement. Mais il faut, alors, pour faire toutes ces recherches par Internet, il faut qu'elle passe par un proxy en intérieur. Donc, je peux voir les recherches qu'elle fait. C'est juste un contrôle parental, efficace. Voilà. Je pense que c'est toujours, on a deux curseurs, c'est la confiance et le contrôle. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'en laissant plus de liberté aux adolescents, il faut quand même leur tenir la main, il faut les accompagner. C'est le grand monde d'Internet est truffé de mauvaises pages, etc. Et on peut très bien tomber dessus. Donc c'est simplement les avertir et les aider à les éviter. Et le meilleur moyen, c'est un contrôle efficace, un contrôle humain, et pas un contrôle électronique qui ne marche pas.
Donc concrètement, vous faites un tour de temps en temps sur les pages qu'elle recherche?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès lors que... en fait, le proxy, j'ai un petit moteur qui m'enlève toutes les pages que j'ai déjà validées. Donc il ne va mettre que les pages inconnues. Et là, alors le plus souvent, c'est des pages YouTube. Et donc il faut que j'aille dessus. C'est assez pénible parce qu'il y a toujours des codes incompréhensibles. Mais c'est souvent des chanteurs, des choses comme ça. Donc ça pose pas trop de problèmes. Même si les vidéos deviennent un peu violentes ou suggestives avec les chanteurs. Donc il y a aussi ça.
Il vous arrivez de dire non pour une page, d'interdire quel genre de page par exemple?
Oh bah des chanteurs de rap, de choses comme ça, ou vraiment les images, l'image de la femme, l'image aussi, il y a des images sexuelles assez explicites que je ne souhaite pas qu'un enfant de 14-15 ans voit. Et d'ailleurs, je vois pas l'intérêt personnellement pour l'artiste, si ce n'est que d'attirer un public jeune qui est intéressé par ça.
Thomas Hudson était au micro de Maëlle Robert. Quelle que soit la stratégie adoptée, ce n'est certainement pas simple de protéger ses enfants aujourd'hui. Les témoignages de victimes de harcèlement scolaire et les excès en tout genre font désormais la une de l'actualité plusieurs fois par an. Pour terminer ce voyage aux frontières de l'adosphère, Maëlle Robert s'est rendue au collège Daniel Ferry à Limeil-Brévannes, région parisienne, où deux classes de 4e ont le droit d'utiliser leur ordinateur et d'aller sur les réseaux sociaux pendant leur leur cours d'histoire-géographie. Pourquoi ? Eh bien, ces élèves participent à ce qu'ils appellent des défis Twitter, une manière pour l'école et surtout pour les enseignants de s'insérer dans l'univers de leurs élèves en ligne.
Votre défi, c'est ça ? Écoutez bien. Ils vous ont dessiné une paire de chaussures. Donc déjà, il faut qu'on identifie ce que c'est comme chaussure. Et après, ils nous demandent en deuxième temps de faire un croquis. Dans un dessin, ça veut dire du port d'où elles ont été expédiées.
Madame, on les salue, moi,
En fait, les défis Twitter, c'est 5 professeurs à travers la France qui utilisent le réseau social Twitter pour travailler le programme d'histoire et de géographie en classe de 4e. Alors, c'est une classe qui tweet une photo ou une petite vidéo ou un article de presse ou une charade, voilà, toutes les formes sont imaginables, à une autre classe et qui doit lui répondre via Twitter en respectant évidemment les codes de politesse, les 140 signes, les majuscules, la grammaire, l'orthographe, etc. Donc, je suis Marie-Astrid Devert, je suis professeure d'histoire à Limeil-Brévan, collège Daniel Ferry. Alors, la salle 18 Ferry, donc, c'est l'autre classe de Limeil-Brévan qui participe au défi. Et donc, ils nous ont envoyé une photo de basket. Et le défi, c'est nous vous demandons, grâce au dessin, de trouver le port d'où viennent les baskets.
Des chaussures noires et rouges, avec une signature.
On essaie de trouver si ça, c'est la marque Nike. Moi, je vois la chaussure qui est en bas, c'est des Jordan.
Ben maintenant, on va regarder s'il y a plusieurs usines de fabrication de ces chaussures.
Enfin, dans la classe, il y a des personnes qui ont des Air Jordan. Et juste en voyant la languette, on voit qu'il y en a, ils étaient créés en Chine, au Vietnam, etc. Enfin, en gros, c'est, on va dire la gauche, elle a été créée au Vietnam et la droite en Chine.
Là, tu es en train de poster tes réponses sur Twitter ?
Bah déjà, on a déjà répondu pour les chaussures. Ils ont été créés où ? Et là, on essaie de répondre où ils sont expédiés.
Pour vous, c'est aussi une façon de. C'est un intérêt pédagogique, quoi, que les élèves s'approprient plus les connaissances et participent davantage que dans un cours non classique.
Bah, ils sont obligés, hein. Puis c'est pas du tout descendant, là, pour le coup, c'est ascendant. C'est-à-dire que c'est eux qui vont chercher. Moi, je peux les aider un petit peu, leur donner des petites clés, mais là, ce matin, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est eux. Donc, voilà, j'étais comme eux, finalement. Donc, c'est bien, parce que, voilà, ils sont obligés de s'y mettre, parce qu'ils oseraient jamais dire qu'ils répondent pas, quoi. Ça serait pas possible. Donc, ils sont assez motivés quand même.
Et les élèves retiennent mieux après, par exemple, avoir vu peut-être le chemin de la bête.
Je pense que là, ils ont bien compris. Voilà, les zones industrielles portuaires, c'est bien rentré. Après, on verra. C'est peut-être un peu plus difficile en histoire, mais bon, on verra au prochain défi ce que ça donne.
Qu'est-ce que ça vous fait d'utiliser Twitter en réseau social pendant vos cours d'histoire géo?
Ça permet de faire autre chose que de l'histoire, écrire dans nos classeurs et tout ça, ça change un peu. Ça nous intéresse déjà plus parce que c'est des écrans et on est toujours plus intéressé par les écrans.
Des défis comme ça, bah moi franchement ça me donne plus envie de faire des recherches, d'y aller et tout. Alors que si on me dit juste ouais bah trouver où ça a été conçu, je me dis ouais ok. Alors que quand c'est un défi, bah voilà, ça me met plus dans le bain en fait.
Donc globalement, si on reprend. On a été capable très vite d'identifier la paire de chaussures, d'accord ? Enfin, les paires de chaussures, on a trouvé ce que c'était, les 3 modèles de paires de chaussures. Ils ne nous le demandaient pas, mais on le sait. Du coup, on a des informations en plus. On a trouvé qu'il y avait une différence entre la conception et le lieu de fabrication, d'accord ? Donc, moi, je pense qu'on va partir sur le plus grand port du monde, parce que par un souci de taille, majoritairement, logiquement, je pense qu'on part sur le port chinois, d'accord ?
Maintenant, vous êtes en train de faire un croquis pour compléter votre réponse au défi Twitter, c'est ça ?
Il représente Shanghai et le port de Shanghai et son pont qui les relie.
Avec les légendes, la ville de Shanghai, le pont, la mer, l'île, la zone industrielle portuaire qui les relie.
Donc une fois qu'ils ont les croquis, on prend en photo les croquis et après on les insère très facilement dans le fil Twitter en ajoutant une image pour répondre avec une petite réponse en 140 signes. Donc là par contre, comme le défi était difficile, bah, y a eu beaucoup de réponses pour le coup. 7 tweets pour la réponse.
Marie-Astrid Devert, vous dites que utiliser Twitter, c'est aussi faire un exercice de français où on apprend la concision.
C'est ça, les 140 signes, et puis arriver quand même à être poli, courtois, mettre des majuscules, des points et faire des phrases.
et pas parler en langage texto, quoi. Ça, c'est important aussi. Enfin, c'est un exercice de rédaction. C'est le compte Twitter de la classe 11, qui est ma classe, et je suis toujours avec eux dans les moments d'échange et on surveille. Voilà, ils peuvent pas faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux, c'est pas le but. Et justement, le but, c'est de les éduquer et de leur montrer qu'il faut en faire une utilisation responsable.
Vous leur parlez justement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire sur les réseaux sociaux?
Oui, alors on en parle beaucoup. Alors je pense que Twitter, c'est peut-être moins un média qui permet de faire n'importe quoi avec. Je pense que c'est plus sur Facebook et avec Instagram et Snapchat et ces choses-là qui font n'importe quoi, entre guillemets. Donc justement, il faut leur... il faut dès au collège leur expliquer que toutes ces choses-là, les traces numériques restent pour toujours. Donc, mais je pense qu'ils sont assez sensibilisés quand même maintenant et qu'ils le savent et qu'ils s'en rendent compte.
Moi, je trouve les profs, ils sont mis à la mode parce qu'avant, ils étaient tout vieux et tout.
Ça change parce que ça colle à notre génération, pour une fois, donc c'est mieux.
Bienvenue en Adosphère était une coproduction de l'Atelier des médias, Manon Mella, Mélissa Barra, Mathias Virilli, Simon Decreuse et Ziad Malouf, et de la session magazine radio de l'IPJ. Au sommaire cette semaine, Maëlle Robert, Théo Hetch et Bastien Lejeune. Merci à elle, merci à eux. Merci aussi aux autres apprentis journalistes qui se sont impliqués dans ce projet. Rendez-vous, quant à nous, dans une semaine, même lieu, même heure. À bientôt.
D'ailleurs, j'ai un petit message à toutes les personnes âgées qui regardent cette vidéo. Arrêtez tout de suite, de manière immédiate, le jeu de mots face de bouc. On arrête, s'il vous plaît.